RCF.
Un prêtre qui dit qu'il fait le plus beau métier du monde et qu'il l'écrit dans un livre et puis d'autres livres également. Il avait le choix entre batteur dans un groupe de rock ou curé de paroisse. La foi l'a emporté. Benoît Cousin, vous êtes notre invité sur RCF, bonjour.
Bonjour.
Vous avez un parcours qui a débuté un 31 mai 1977, c'est ça ?
Exactement, je suis né un 31 mai 1977 à Valence, voilà, dans une famille où je suis, j'ai la joie d'être l'aîné. Alors, on choisit jamais la place qu'on a dans une famille, mais c'est ainsi. Et je suis donc l'aîné de 6 enfants, puisque j'ai en tout 3 frères et 2 petites sœurs, voilà.
J'invite les auditeurs à aller voir les vidéos que vous postez autour de Noël, notamment, où vous êtes tous ensemble en train de faire de la musique.
Exactement.
Parce que la musique aussi, on peut dire que c'est un point très important dans la famille.
Ouais, en fait, alors en ce qui me concerne, moi à l'âge de 11 ans, je suis allé voir un jour un concert de rock. C'était en fait un groupe qui s'appelait Nouvelle Alliance. Et donc j'arrive dans cette salle, j'ai 11 ans, mes parents m'emmènent voir ce concert. Et là, mes yeux se posent sur le batteur. Et c'est là que je dis, c'est ça que je veux faire. Et de fait, je crée ma batterie avec des barils de lessive, avec des morceaux de carton, avec les casseroles de ma chère maman.
Et là, ça marque un engagement quand même, une volonté.
Ah oui, carrément. Donc j'écoute de la musique, je joue derrière. Et jusqu'au jour où je rêve d'avoir enfin l'objet de mes rêves. Et là, le jour où j'ai eu une batterie, effectivement, j'ai vraiment pris des cours et j'ai vraiment travaillé ça.
Vos frères plus petits, du coup, eux aussi ont attrapé des instruments et puis ont fait de la scène et puis sont connus aujourd'hui puisque ce sont les Glorious.
Bien sûr, exactement. Alors, c'est vrai que tout ça est né dans la cave de notre famille, hein, puisque moi, j'ai commencé la musique, la batterie là. Mon frère Aurélien s'est ensuite mis à la guitare. Mon frère Benjamin aussi, Thomas au piano. Et dire la foi à travers leur musique. Et surtout, bah, ce qu'ils font, eux, c'est de la pop. Donc voilà, c'est un style de musique. Et ils ont créé le concept pop louange, c'est-à-dire qu'à travers leur musique pop, eh bien, ils invitent les gens à louer Dieu. Louer, c'est rendre grâce, dire merci, s'ouvrir à Dieu, lui remettre nos vies et puis croire que lui peut tout par son amour et par sa grâce. Et c'est une forme de prière qui est très belle.
Un anti-star system, un peu, en quelque sorte.
Ah ben, l'idée, c'est que celui qu'on vient voir, celui qui est au cœur, celui qui est au centre, c'est Jésus-Christ. C'est en fait d'abord un temps de prière. Parce que les acteurs principaux, ce sont les personnes. Et celui vers qui les cœurs se tournent, c'est Jésus-Christ.
Et vous aussi, vous étiez dans ce groupe de rock, du coup, en tant que batteur. Et vous avez joué notamment avec des gens un peu connus comme Dionysos.
Alors, exactement. Alors moi, à partir de 11 ans, donc quelques temps après, vers l'âge de 13-14 ans, j'ai eu ma batterie. Donc, j'ai pris des cours. Et donc, c'est comme ça que j'ai rencontré, en fait, ce groupe qui, à l'époque, ne chantait pas du tout la gloire de Dieu, loin s'en faut, hein, puisqu'on était plutôt dans le style Nirvana, Noir Désir, rock alternatif. C'était pas du tout mon style, a priori, même si je faisais du rock. Et vraiment, c'est un univers que j'ai découvert. Et puis, avant tout, ce sont devenus vraiment des amis. On a monté un groupe. Et tous les samedis, on se retrouvait, on travaillait, on répétait. Et les samedis soirs, de tout mon lycée, soit on passait notre soirée ensemble, soit on allait faire des concerts dans des bars. Et ça a été vraiment une expérience très forte. Et à côté de nous, en fait, puisqu'on répétait dans ce qu'on appelle les locaux rock, la mairie de Valence laissait à disposition des salles, des locaux, pour permettre à des groupes de répéter. Et il y avait donc juste à côté de nous un groupe qui s'appelle Dionysos et qui, eux, ont fait carrière.
On fait le chemin qu'on sait. Mathias Malzieux, qui est revenu d'ailleurs dans le département de la Drôme il n'y a pas très longtemps.
Exactement.
La musique aujourd'hui, vous en faites encore un peu ?
Alors, bien sûr, après la batterie, je me suis mis à l'âge de 20 ans à la guitare parce que la batterie, c'est bien joli. Ça donne le rythme. Alors, le petit souci, c'est quand tu veux animer quelque chose, c'est quand même pas très, très cool. Donc, résultat des cours, je me suis mis à la guitare pour pouvoir aussi chanter. La musique, c'est un véritable vecteur. Aujourd'hui, un jeune, il écoute en moyenne 3 heures au moins de musique par jour. Et c'est vraiment un beau moyen pour ma mission, en tout cas, ça c'est sûr.
Là aussi, vous faites quelques vidéos. Vous êtes assez proche des jeunes et des réseaux sociaux avec la guitare. Vous utilisez aussi ce moyen-là pour parler aux jeunes qui sont peut-être des fois un peu loin des églises.
Ouais, tout à fait. Alors, depuis longtemps, je suis sur Facebook, sur Instagram. Puis là, depuis début décembre, là, je suis sur TikTok. Puis je me suis, petit à petit, j'ai repris, en fait, ce moyen-là. Les jeunes passent leur vie là-dessus. Ils font ce qu'on appelle, ils scrollent toute la journée. C'est-à-dire, ils sont sur des pages et voilà, ils regardent des vidéos. Et je me suis dit, finalement, il y a tellement tout et n'importe quoi. C'est l'occasion aussi, justement, d'utiliser ce moyen pour leur parler. Et en fait, ça marche vachement et je me rends compte depuis que même ma relation aux jeunes a changé parce que le fait qu'ils me voient sur les réseaux ou que je puisse les renvoyer par ce biais surtout, c'est des petites vidéos, donc pendant une minute, t'expliques quelque chose de la foi, t'expliques quelque chose de l'évangile, t'expliques quelque chose du mystère de la messe, du sacrement de réconciliation, et ben c'est vraiment un bon moyen finalement pour eux, et ils suivent, et ils regardent, et je vois que ça a un véritable impact. Et puis ben, quand une vidéo que tu publies, elle fait plus de 10 000 vues, ou même une qui a fait plus de 600 000 vues, tu dis, ben ça sert pas à rien quoi.
600 000 vues ?
600 000 vues, ouais.
Ah oui, c'est quelque chose.
Ça commence à faire. Ouais.
Et quand on vous regarde, on se dit, ben, le fait d'avoir joué dans des groupes de rock, de faire de la musique, tout ça, on a l'impression que ça vous conserve aussi une certaine jeunesse. Vous avez un petit côté ado.
Ah ouais, mais en fait, en vivant avec les jeunes, on reste jeune. Et je pense qu'en fait, c'est qu'un état d'esprit. Pour moi, une des personnes dont j'ai découvert une jeunesse éternelle incroyable, c'est une femme de 83 ans qui s'appelle Sœur Emmanuelle, que j'ai eu la chance de rencontrer quand j'avais 14 ans. Pour moi, cette femme, elle m'a complètement ébloui parce qu'elle était tellement remplie de joie, de force, de peps, de feu. Et je pense que, parce que je crois profondément, un, qu'elle aimait les jeunes, et deux, surtout, elle savait leur parler. Et pour moi, la parole qu'elle a eue et qui me marque et qui aujourd'hui est mon grand credo, c'est « j'ai besoin de vous ». Et moi, je trouvais ça génial. Et c'est vrai qu'en vivant au milieu des jeunes, ben, on reste jeune parce que finalement, ben, la jeunesse du cœur, ce n'est pas une question d'âge.
Alors, vous parlez de grande figure chrétienne, Sœur Emmanuelle. Ce n'est pas la seule qui vous a marqué aussi dans votre enfance. Un peu plus tôt, à l'âge de 9 ans aussi, vous étiez assez ébloui, allons-nous dire, par Mère Teresa, Jean-Paul II,
ouais.
Guy Gilbert.
Oui, tout à fait, des personnes comme ça. Alors, j'ai eu la joie, effectivement, de rencontrer Mère Teresa lors d'une session à Paray-le-Monial. Elle était venue cette année-là, donc elle parlait qu'en anglais. Moi, à l'époque, j'avais 9 ans, et dans mon premier livre, dont le titre est « Je fais le plus beau métier du monde », je raconte que, en la voyant, on avait eu la chance de vivre la messe avec elle, et ce jour-là, j'ai décidé de faire ma première communion en sa présence, sans mes parents, sans personne. Mais pour moi, ce qui était le plus important, c'est de recevoir le Seigneur et surtout de le vivre avec une personne comme elle. Et donc ça, c'était vraiment une belle rencontre. Jean-Paul II, je l'ai vu d'un peu plus loin. C'était en 86, quand il était venu à Lyon. J'étais sur les épaules de mon père, mais c'est une image qui me reste gravée à jamais. Et puis Guy Gilbert un peu plus, parce que je me souviens très bien de lui. Il était venu à l'époque à l'église Sainte-Catherine, à Valence, et c'est l'église dans laquelle je suis prêtre aujourd'hui. Et c'est vrai qu'il m'avait assez impressionné par sa force. Bon, on connaît tous le caractère de Guy Gilbert, mais c'est quand même un sacré bonhomme, rempli de foi, et puis surtout d'amour, et puis qui te secoue, quoi, qui te dit, mon vieux, si tu veux être chrétien, si tu veux aimer Jésus, ben, tu dois aimer les autres, et surtout les plus pauvres, quoi.
Alors, l'église Sainte-Catherine, justement, c'est dans cette église que vous avez organisé plusieurs fois des concerts avec Natacha Saint-Pierre. Je vous ai même vu jouer à ses côtés et prendre votre guitare à l'un de ses concerts. Vous avez choisi pour la première pause musicale Natacha Saint-Pierre.
J'ai choisi Natacha Saint-Pierre, un morceau qui a été composé par mes frères Benjamin et Thomas. Ce chant s'appelle Zélie. C'est en fait, en écrivant ce texte, mes frères se mettent dans la peau de Thérèse, la petite Thérèse, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui à l'époque a 4 ans et perd sa maman. À la fois une certaine allégresse, espérance, puis en même temps, il y a aussi tout le désespoir de se dire comment, quand on est enfant, on perd ses parents. Et moi, dans ma vie de prêtre, il m'est arrivé, et il m'arrive encore, d'accompagner souvent des enfants, même des petits, qui perdent leurs parents. C'est toujours une grande détresse. Donc voilà, à travers ce chant, je rends hommage à toutes les personnes qui ont perdu un être cher plus largement. Et gardons cette espérance qu'un jour, tous nous nous retrouverons auprès du Seigneur.
Si je pouvais simplement te revoir, te dire combien tu manques à ma vie en ce soir, rien ne remplacera ce lien si fort qu'une mère et sa fille tissent tel un trésor. Mais pourquoi es-tu parti si tôt? Un enfant ne peut pas voir si haut. Si tes bras ne sont pas là pour moi, un enfant ne sait pas vivre ça. Je sais que tu m'entends de là-haut. Envoie-moi du haut du ciel un mot. J'écrirai ne m'abandonne pas. C'est l'espoir qui m'envole vers toi. Ton visage était une prière. Dans la profondeur de tes bras était ma terre. Je n'entendrai n'entendrai plus tes doux murmures. Je suis si seule qui viendra guérir mes blessures. Mais pourquoi es-tu parti si tôt? Un enfant ne peut pas voir si haut. Si tes bras ne sont pas là pour moi, un enfant ne sait pas vivre ça. Je sais que tu m'entends de là-haut. Envoie-moi du haut du ciel un mot. J'écrirai, ne m'abandonne pas. C'est l'espoir qui m'envoie.
La foi se raconte dans Témoins.
Toujours dans notre émission sur RCF, après cette très belle chanson, Natacha Saint-Pierre, écrite donc par les frères de notre invité aujourd'hui, Benoît Pouzin, prêtre du diocèse de Valence, ici dans la ville de Valence, dans l'église Sainte-Catherine, dans laquelle Natacha Saint-Pierre a déjà fait plusieurs concerts. Dans cette seconde partie, Benoît, on va s'intéresser un peu à votre spiritualité, la naissance de la foi. On en a un peu parlé dans la première partie. Vous avez dit, à 9 ans, j'ai eu la chance de voir Mère Teresa. À 14 ans, j'ai eu la chance de rencontrer Sœur Emmanuelle. Et il y a des personnalités comme ça qui vous ont marqué, qui ont jalonné un peu votre parcours et qui, petit à petit, ont fait qu'à 14 ans, il y a quelque chose qui se passe.
Exactement. Alors, j'ai eu la chance d'avoir des parents chrétiens qui m'ont transmis la foi. Mes parents, quand j'étais tout petit, ils allaient à la messe parce qu'on leur avait appris à aller à la messe tous les dimanches, ce qu'ils faisaient. Et un jour, l'un et l'autre, ils ont vécu quelque chose de fort dans leur foi. Et donc, ils ont voulu nous la transmettre. Et un moment fort pour moi dans mon existence, dans ma vie de foi, c'était ces temps de prière que nous vivions enfants. D'abord, je trouvais ça super d'avoir un petit temps privilégié en famille où on se retrouvait. On appelait l'Esprit-Saint, on priait, c'était vraiment très beau. Et alors, une chose qui m'a beaucoup marqué enfant, c'est que nous vivions l'expérience du pardon. On sait que dans une vie de famille, il y a plein de moments de joie, il y a plein de moments de bonheur. Puis il y a des moments où ça tire, ça crise, où il y a des disputes, il y a des rivalités, des jalousies, des conflits, des comparaisons, enfin des problèmes. Et donc, mes parents, au lieu de dire « toi, tu as vu ce que tu as fait à lui, tu devrais avoir honte, tu devrais t'excuser, etc. » Non, pas du tout. Ils faisaient, eux, la démarche de venir vers nous. Ils se mettaient à genoux et ils nous demandaient pardon s'ils s'étaient énervés, s'ils avaient manqué de patience, s'ils avaient pu nous dire une parole qui avait pu nous blesser, et ils le faisaient au nom de Jésus. Et donc nous, on vivait ça les uns avec les autres. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué, parce que pour moi, la clé de l'amour, c'est le pardon. Et à 14 ans, un été, comme très souvent en fait, mes parents tous les étés aimaient bien qu'on puisse vivre un temps un peu fort, spirituel, à Paray-le-Monial. Donc j'étais qu'avec des jeunes de mon âge, hein, 12-14 ans, d'avoir la chance d'avoir le témoignage de Sœur Emmanuelle. Et le lendemain, donc le 16 juillet 1991, vous voyez, c'est très précis, j'ai 14 ans, on commence la journée par un temps de prière, un temps d'adoration eucharistique. On met Jésus présent dans l'hostie et nous, les chrétiens, nous croyons qu'il est là réellement présent. Et en regardant les jeunes qui sont là, je vois les jeunes prier. En fait, quand quelqu'un prie, c'est beau. Et là, j'ai eu pour la première fois de ma vie, alors que j'avais prié des milliers de fois, j'ai vraiment eu le désir que Dieu vienne en moi. Vous savez, il y a cette parole dans l'Apocalypse où il est dit « Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » En fait, le mystère de la foi, moi j'aime toujours l'expliquer comme ça aux jeunes, c'est comme si en nous on avait un sanctuaire sacré où il n'y a que toi qui peux être présent. Et Dieu, il est là, il frappe à la porte. Et il n'y a que toi qui peux ouvrir la porte. C'est ça la foi. Et si tu ouvres la porte, eh ben, Dieu va entrer. Et si tu choisis de faire ta vie avec Dieu, ben là, c'est sûr, c'est le bonheur, la joie assurée. Et donc, ce Jésus dont on m'avait parlé, qui était mort sur la croix, qui est vivant, ressuscité, ben, je fais l'expérience de sa présence et je me sais aimé par lui, aimé de lui. Et là, je sors de cette tente et je suis passé de la foi reçue à la foi vécue personnellement. Voilà. Et ça, c'est le vrai, vrai changement de ma vie.
Comment on vit ça quand on a 14 ans, quand ses autres copains de classe vont pas à Paray-le-Monial chaque été, mais plutôt au bord de la mer, faire carrément autre chose que d'avoir un été un peu fort spirituellement comme le voulaient vos parents? Est-ce que y a pas des moments où c'est mal vécu?
Après, c'est vrai que à ce moment-là de ma vie, je vois qu'il y a vraiment des nouveautés parce que je me mets à prier, je me mets à vivre ma foi autrement, mais je reste quand même assez discret, c'est-à-dire que j'ai plein d'amis, je vis ma vie, mais je suis pas là en train d'annoncer évidemment Jésus-Christ du matin au soir. Par contre, pour moi, au moment où j'arrive en âge lycée, là, c'est un peu différent parce que j'ai vraiment beaucoup d'amis en grandissant, il y en a quand même certains, et je ne cache pas du tout le fait que je sois chrétien, certains commencent à m'interroger. Et donc là, je commence à avoir des discussions passionnantes, et notamment avec mon groupe de rock, où il n'y en a pas un qui croit en Dieu. Et ben c'est ça qui est beau, c'est-à-dire que je ne vis pas du tout dans ma bulle, qu'avec des gens comme moi, pas du tout, du tout. Mais je rencontre plutôt des gens qui ne croient pas en Dieu, mais je m'engage aussi avec d'autres, c'est-à-dire que ma foi, elle me met en mouvement.
Vous avez écrit un livre qui s'appelle « La vie, la mort, l'amour », et je suppose que l'ordre de ces trois mots a été choisi. Avec une sorte de boîte à questions, justement. Et ça peut faire écho à ce que vous venez de dire, c'est-à-dire des gens qui commencent à vous poser des questions. Et finalement, quand on croise quelqu'un qui a une foi comme ça, un peu chevillée au cœur, eh bien, ça pose question. Il y en a qui cherchent.
Exactement. Et puis parce qu'en fait, quand je suis devenu prêtre, très vite, je suis allé dans les écoles, dans les classes. Et je me suis dit, au lieu de barber les enfants avec mes grands discours, on mettait dans les classes une boîte, ça s'appelait la boîte à questions du Père Benoît. De telle sorte que quand je venais régulièrement, j'arrivais dans la classe et je dis « Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que vous avez envie de me poser comme question. » Donc, j'ouvrais la boîte et puis je répondais à ces questions. Et donc, j'ai repris un peu toutes ces grandes questions, effectivement, autour de Dieu, autour de la vie, de la mort et de l'amour. Et donc, dans ce livre qui est comme une boîte à questions, bah, je réponds à tout ça. Et effectivement, la foi, elle nous met toujours en questionnement, en fait. Ça, c'est aussi très important. C'est-à-dire que parfois, il y a des situations où il n'y a pas de réponse. Face à certaines situations, comme la mort d'un jeune, comme face à une catastrophe, face à des douleurs terribles que peuvent vivre des gens, eh ben, il n'y a que le silence. Et des fois, on se dit ben, « je ne sais pas quoi dire, mais il n'y a rien à dire. Il y a à être là, tout simplement, écouter. »
Vous avez croisé d'autres personnalités, d'autres prêtres qui vous ont marqué aussi pendant votre parcours. En quoi ces personnes vous ont aidé et ont fait que vous soyez... cette personne que j'ai en face de moi aujourd'hui.
Lorsque j'ai vécu cette expérience spirituelle à 14 ans à Paray-le-Monial, où j'ouvre mon cœur, où je fais vraiment cette rencontre avec Jésus, c'est à ce moment-là que vient vraiment cette question. Ça a mis ma foi en mouvement, et donc de rencontrer aussi, et ça c'est très important, certes des prêtres, mais aussi des laïcs qui m'ont fait confiance. Des hommes, des femmes, des baptisés qui m'ont dit « j'ai besoin de toi », un peu comme le grand cri de sœur Emmanuel. Évidemment, il y avait le curé de ma paroisse, le père Raymond Perret, mais je pense aussi à Alain Planet, parce que quand j'ai vécu cette expérience à Paray-le-Monial, je lui ai raconté ce que j'avais vécu. Et il m'a dit « c'est très beau ». Il m'a dit cette parole magnifique, il m'a dit « vis ta vie de chrétien là où tu es, sois accompagné spirituellement, et quand tu auras ton bac, en gros, on en reparlera ». Mais ça veut dire... Dieu ne t'appelle pas demain, il t'appelle dans ta vie d'aujourd'hui, tous les jours, sois chrétien. Et donc là, il m'avait donné la liste de prêtres, et j'avais choisi un prêtre, le père Pierre Charignon, qui a été donc mon père spirituel, et qui m'a accompagné, qui m'a aidé sur ce chemin. Et ça, je pense que c'est très important dans mon premier livre, j'insiste beaucoup là-dessus. C'était le cardinal Danis qui disait ça, un chrétien seul est un chrétien en danger, c'est-à-dire on ne peut pas vivre sa foi tout seul, on a besoin des autres, on a besoin d'être aidé, accompagné. Et ça, c'est fondamental.
On a besoin d'ouvrir son cœur aussi. Vous avez choisi une deuxième pause musicale avec le groupe Glorious. Pourquoi cette chanson « J'ouvre mon cœur » ?
Alors, parce que, je la trouve très belle. Et dans le texte, en fait, quand je vais témoigner, quand je donne mon témoignage, à chaque fois, je finis avec ce chant qui, pour moi, résume toute l'expérience spirituelle que j'ai faite. Saint-Esprit, tu frappes. Ce chant, il dit ça. Il dit « Saint-Esprit, tu frappes à la porte de mon cœur ». Voilà. Et puis, le fait de dire « j'ouvre mon cœur, brise l'armure », eh bien, ça veut dire que parfois, devant la porte de notre cœur, on peut mettre parfois des verrous, des choses qui empêchent, vous voyez, que la porte puisse s'ouvrir. Et moi, j'espère et je souhaite cela à tout être humain, mais ça, il n'y a que toi qui peux le décider, de faire cette expérience d'ouvrir ton cœur pour accueillir en toi cet amour infini de Dieu et donc de pouvoir faire cette expérience que tu es aimé tel que tu es infiniment par Dieu.
Saint-Esprit, tu frappes à la porte de ma vie, aujourd'hui, je veux t'accueillir en moi, Saint-Esprit, Saint-Esprit. J'ouvre mon cœur.
Témoin, quand la foi se raconte.
Toujours sur RCF, dans notre émission en compagnie du père Benoît Pouzin, prêtre du diocèse de Valence, avec cette très belle chanson de Glorious, « J'ouvre mon cœur ». Et c'est le souhait que vous faites pour chacun d'entre nous, chacune des personnes que vous croisez. Ça peut-être faire peur d'ouvrir son cœur à un moment. Peut-être que certains entendent frapper à la porte, mais disent « Oulala, qu'est-ce qui va se passer si j'ouvre la porte ?»
Exactement. Je dis souvent aux jeunes, si t'écoutes de la musique ou que t'es chez toi en train de passer aspirateur, t'entendras pas frapper à la porte. Donc faire pour moi l'expérience déjà du silence. Et en fait, j'aime beaucoup faire vivre cette expérience aux enfants et aux jeunes qui sont très sensibles. Alors parfois ça leur fait un peu peur, ils sont pas très habitués, mais le fait de fermer ses yeux, quelque part mettre aussi son corps en silence, de plus bouger, de s'arrêter un instant. Avoir la foi, c'est d'abord accueillir. J'ai un jeune qui m'a écrit, un jeune de 16 ans, qui me dit « Voilà, je suis baptisé, mais je vais pas à la messe, je prie jamais. » Et en entendant votre témoignage, ça m'a donné envie de prier, un truc que je fais jamais. Il a mis son portable en mode avion, il a fermé ses yeux, il a fait un beau signe de croix, et puis il s'est mis à parler à Dieu. Et puis à un moment, il a fait vraiment ce silence. À l'intérieur de lui, il me dit « Ça a été magnifique, vraiment ça m'a fait tellement de bien, j'ai reçu comme une paix, une joie, je sentais vraiment comme une présence en moi de Dieu, et sans avoir eu ni d'apparition, ni rien d'extraordinaire, mais de fait de se poser à un moment, de pouvoir parler à Dieu. Dieu nous a créés libres. » Pour ça d'ailleurs j'explique souvent aux enfants, aux jeunes, pourquoi Dieu on le voit pas? Si on le voyait, ben moi j'y croirais. Ben en fait Dieu on le voit pas, tout simplement parce qu'il ne veut pas s'imposer.
Benoît Pouzin, un prêtre, on appelle mon père, un père spirituel, pas un père biologique, il y a quand même probablement des similitudes et puis aussi des différences. Vous qui êtes beaucoup avec des jeunes, ces jeunes ont pour la plupart déjà un père. Quelle est la différence entre ce que peut apporter un père spirituel et un père biologique?
Un jour, il y a un petit garçon comme ça qui m'avait dit, il devait avoir 5-6 ans, il me dit... et toi, pourquoi on t'appelle mon père, t'es pas mon père? Alors j'avais trouvé cette question magnifique, je lui ai dit, effectivement, tu as un papa sur la terre, tu as une maman, Dieu est passé par eux pour que tu sois ce que tu es. Tu vois, tes parents, tous les matins, ils se lèvent pour que tu puisses avoir un toit, te nourrir, aller à l'école, et puis t'aident à grandir, pour qu'un jour tu puisses, toi, prendre la porte, c'est-à-dire, comme veut dire le mot éduquer, qui veut dire conduire dehors, pour qu'un jour, toi-même, tu sois adulte et que tu prennes ta vie en main. Bien, t'as un autre père... que je suis, qui suis prêtre, et moi j'ai donné ma vie à tous, pas à certains, à tous, tous les enfants qui m'appellent Père Benoît, ou les jeunes qui m'appellent Père Benoît, ça me rappelle toujours aussi ça, quelque part, d'être ce Père qui conduit vers le Père du Ciel, qui est vraiment la source de toute paternité, la source de tout amour.
Si vous n'aviez pas fait le plus beau métier du monde, c'est-à-dire prêtre, puisque c'est le titre de votre premier livre, vous auriez fait quoi comme métier?
Alors c'est vrai que c'est un peu surprenant. Alors c'est un peu surprenant le titre du premier livre, je fais le plus beau métier du monde, parce qu'on sait bien que prêtre c'est pas un métier, c'est une vocation, c'est-à-dire c'est un appel. Je rêvais d'être enseignant, je rêvais d'être médecin, je rêvais d'être avocat, d'être musicien. D'être footballeur aussi, parce que le football, le sport, ça, c'est une place importante dans ma vie. Et donc, je reprends tous ces métiers et je raconte comment je suis enseignant, médecin, avocat, footballeur, musicien, etc., dans ma vie de prêtre. De pouvoir un peu, comme un médecin, finalement, prendre soin, non pas des corps, mais des âmes. Avocat, prendre la défense souvent des sans-voix, des plus petits, de ceux qu'on n'entend jamais, des plus pauvres. Footballeur, parce que j'aime bien à travers le sport être aussi au milieu, c'est-à-dire chausser les crampons, comme nous le disait le pape François aux jeunes. Sortez de vos canapés, mettez vos crampons, je suis comme un autre, je suis un joueur, je vis avec et je suis pas là simplement ni en dessous ni au-dessus, mais je suis avec, au milieu, comme d'ailleurs le pape François nous invite à l'être. Un prêtre, il doit être au milieu des gens. Et puis musicien, bien sûr, comme je vous le disais tout à l'heure, mon ministère, je le vis toujours avec ma guitare, avec la musique. Donc c'est aussi un moyen d'annoncer ma foi. Et de dire aussi finalement aux jeunes que être prêtre, donner sa vie, c'est quelque chose de beau. Et moi, j'ai toujours à cœur de redire ma joie aujourd'hui d'être prêtre.
Qu'est-ce qui, tous les matins, vous donne envie de vous remettre debout, de retourner avec un agenda hyper chargé là pour trouver ce rendez-vous aujourd'hui, ça on s'y est pris à 3-4 fois. qu'est-ce qui fait que vous allez y aller avec la pêche, le courage et puis le dynamisme et la joie qu'on voit.
Alors, il y a des moments où c'est plus compliqué, où ça tire, et puis il y a des matins, c'est pas évident. Par contre, la première chose que je fais le matin en me levant, c'est que je fais le signe de croix, et puis je demande vraiment la force de l'Esprit-Saint. Et que je sais que, à travers mes limites, mes pauvretés, mon péché, Dieu passe aussi pour me faire grandir, et c'est le fait de se donner. Et en fait, quelque part, le prêtre, comme disait le bienheureux Antoine Chevrier, doit être l'homme mangé. Mais quelque part, c'est ça. Un prêtre, il doit se donner, plus il se donne, plus il reçoit, plus il est comblé de joie, en fait. Et quelque part, quelqu'un qui se renferme, qui se replie sur lui ou qui est plus heureux, petit à petit, on voit que tout s'effrite en lui.
Benoît Pouzin, le mot de la fin, peut-être pour des personnes qui viennent d'écouter cette émission ou une partie et qui se disent... Oui, c'est bien beau, moi j'aimerais bien avoir une foi comme le père Pouzin, j'aimerais bien, mais je sais pas, ça marche pas avec moi. Ou tous les jeunes que vous avez croisés peut-être dans vos réseaux sociaux, on le sait qu'il y a pas mal de jeunes qui ont une espèce de quête de sens et qui osent pas tellement le faire par les moyens traditionnels et donc qui vont aller à la rencontre, qui vont s'abonner à des prêtres comme vous sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, etc. Pour essayer de comprendre.
Ouais. Effectivement, la plus belle chose que je puisse conseiller, c'est, et il n'y a que toi qui peux faire cette expérience, c'est vraiment déconnecter quelque part avec ce que tu vis, te mettre en quelque sorte en mode avion, et puis fermer tes yeux, ouvrir ton cœur. N'importe quelle personne peut vivre ça. Même si tu ne ressens pas beaucoup de choses, ce n'est pas ça qui est important, c'est accueil. Et surtout, ouvre la parole de Dieu. J'aime cette parole dans Isaïe au chapitre 43, versets 4 et 5, où il est dit « Tu as du prix à mes yeux, tu as de la valeur, et je t'aime. Ne crains pas, car je suis avec toi. Tu peux avoir des épreuves, bien sûr tu as peut-être vécu des choses terribles, bien sûr tu peux te dire « Oui, mais en ce moment, moi, dans mon couple, ou dans mon travail, c'est l'horreur, ou je suis peut-être en dépression, ou je ne vois pas le bout du tunnel, ou financièrement c'est compliqué, ou je ne sais plus où j'en suis, et Dieu m'a abandonné. » Non, fais-lui confiance. Dieu ne t'abandonne pas, en fait, quelle que soit la situation de ta vie. Simplement, fais-lui confiance et crois que le temps de Dieu, ce n'est pas obligatoirement ton temps. C'est-à-dire que Dieu, sera là, exauce toujours nos prières, mais peut-être pas toujours de la manière dont on l'imaginait et au moment où on le pense. Mais en tout cas, lui ne t'abandonne pas, il est avec toi. Puis il y a cette espérance immense que par-delà la mort, il y a la vie. Et que si, par exemple, quelqu'un est marqué par un deuil terrible en disant « j'arrive pas à m'en remettre », il y a toute cette partie du deuil à vivre, bien sûr, mais n'oublie pas que tous, et ça c'est notre espérance, Jésus est ressuscité, tous un jour nous nous retrouverons dans sa gloire à jamais pour l'éternité avec lui. Et ça c'est quand même une sacrée espérance.
Benoît Pouzin, prêtre du diocèse de Valence et puis l'un des prêtres du diocèse du digital aussi et des réseaux sociaux. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci.
Au revoir, merci.
Au revoir, merci beaucoup.